Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être en direct du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, il se tient prêt à mes côtés, il est très en forme aujourd'hui, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, mais pourquoi vous dites aujourd'hui, ça sous-entend que les autres jours...
Tous les jours voilà. Il est en forme et prêt à prendre soin de nous. Alors dans notre grand dossier du jour, nous allons nous intéresser une fois de plus à nos dents, mais aujourd'hui pas forcément quand elles nous font souffrir. On va parler d'esthétique dentaire, et oui, avoir de belles dents, bien blanches, sans tâche, un beau sourire, c'est un motif de plus en plus fréquent en consultation. Alors que peut-on faire concrètement en termes de soins chez le dentiste pour répondre à ces préoccupations esthétiques? Pour nous expliquer tout cela, nous recevrons le docteur Isabelle Schwartz, elle est chirurgien-dentiste à Paris. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, nous nous intéresserons à la cataracte, ce trouble de la vision très fréquent après 65 ans. Alors savez-vous ce qu'il se passe réellement dans les yeux des patients atteints? Comment voit-on quand on a une cataracte et surtout comment ça se traite? Nous ferons le point. Et enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de certaines questions d'hygiène qui peuvent parfois perturber la sexualité.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 39-21 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va commencer par cette question d'Alexis. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'avais une petite question à vous poser. J'avais l'habitude de saigner assez souvent du nez. Mon médecin traitant a donc décidé de me cautériser. Et depuis, je continue quand même à saigner assez régulièrement du nez. Donc, je voulais savoir comment faire pour stopper définitivement ce saignement. Existerait peut-être-il d'autres solutions? Donc voilà, je voulais avoir votre avis et votre réponse. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite une belle émission.
Alors, pour plus de précisions sur ce sujet, nous sommes tournés vers le docteur Patrick Folcon. Il est ORL à l'hôpital Georges Pompidou, à l'assistance publique, hôpital de Paris.
Il faut savoir que les saignements de nez sont un symptôme très fréquent, notamment en consultation d'ORL, et sont liés en fait au développement de petits vaisseaux sur la cloison nasale. Donc la plupart du temps, la mise en place locale de pommades hémostatiques suffit, ou alors ce qu'on peut tenter, c'est une cautérisation avec un certain nombre de produits. Si le saignement persiste, il ne faut pas hésiter à faire un bilan plus complet, notamment rechercher une hypertension artérielle, ou alors des troubles de la coagulation sanguine qui peuvent être à l'origine de saignements comme ça récidivants. Lors d'une cautérisation, souvent, le saignement peut reprendre au bout de quelques semaines ou quelques mois. Donc, il ne faut pas hésiter à recautériser une seconde fois avec éventuellement un produit un peu plus concentré. Et puis, utiliser aussi une pommade hémostatique qui diminue le saignement.
Voilà, c'était le docteur Folcon au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, à présent, on va prendre une deuxième question. Elle est pour vous, celle-ci. Elle nous a été envoyée via Twitter par Thibaut Normand. Je vous la lis. Les civils peuvent-ils acheter des masques FFP2 ou s'en faire prescrire? Je visite souvent un parent âgé, à risque et pas encore vacciné. L'usage de cette protection est-elle pertinente en plus des gestes barrières? Alors Jimmy, les masques FFP2 d'abord, on manquait de tout, de FFP1, de FFP2. Est-ce que vous pouvez nous préciser aujourd'hui, a priori, on a de tous les masques possibles et inimaginables, la différence entre 1 et 2, c'est quoi?
Alors, c'est très simple. Vous avez grosso modo les masques chirurgicaux classiques et les masques FFP2. Les masques FFP2, c'est les masques canards qui ont une caractéristique principale, c'est d'être plus filtrants. C'est-à-dire qu'ils vont plus filtrer les petites particules, notamment les virus. Alors que dans le masque chirurgical classique, ça marche très bien, mais un tout petit peu moins bien. Et en plus de cela, il y a un peu plus de fuite avec un masque chirurgical. Le masque FFP2, lorsque vous en portez un, vous vous rendez compte qu'il est beaucoup plus hermétique, qu'il
a moins de fuite. Il adhère beaucoup plus au visage, hein,
exactement.
C'est ça.
Donc, en temps normal, lorsque vous êtes en train de faire vos courses, lorsque vous êtes dehors, un masque chirurgical suffit. En revanche, on peut se dire que dans certaines situations, notamment plutôt médicales, normalement, un masque FFP2 est recommandé.
D'accord. Et là, il demande si les civils, donc j'allais dire vous et moi, mais bon, vous êtes médecin, est-ce que moi, je peux aller en acheter comme ça à la pharmacie ou est-ce qu'il faut une ordonnance?
Non, ils en vendent désormais en pharmacie, sur Internet. Effectivement, il y a un coût qui est différent, vu que ces masques FFP2 sont plus performants, ils sont forcément plus chers. Il faut compter à peu près 2 euros le masque, ça peut aller jusqu'à 3 euros en fonction, alors que le masque FFP2, une boîte de 50, ça va vous coûter désormais 5 euros. Les prix ont beaucoup baissé. Masque FFP1, les masques chirurgicaux, pardon, classiques, vont coûter 5 euros la boîte de 50. Donc vous voyez bien qu'il y a une vraie différence de prix et que ça ne sert à rien de mettre autant d'argent dans la vie de tous les jours.
Alors justement, juste quand même dans ce cas, là, Thibaut dit, lui, il va donc visiter une personne âgée qui n'est pas encore vaccinée, qui serait à risque. Est-ce que pour lui,
c'est pertinent, ou deux masques chirurgicaux et puis les gestes barrières, ça suffit.
Si mamie porte un masque chirurgical et que lui en porte un, il n'y a aucun problème. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un masque FFP2 si la personne en face de vous porte un masque. En revanche, si vous êtes dans des situations, notamment dans le train, quand les gens ne portent pas très bien le masque, dans le métro, lorsque c'est bondé, dans des salles de cours, on peut s'imaginer ça, quand les écoles
ça
vont ouvrir.
Ça peut être une protection supplémentaire.
Eh bien, on peut se dire qu'un masque FFP2 est plus intéressant. Moi, quand je vais faire mes visites à domicile, eh bien, je mets un masque FFP2 parce que je dépends des autres. Alors que quand on va rendre visite à une personne âgée, elle porte un masque chirurgical, j'en porte un, tout se passe bien.
Très bien. En revanche, ce qui est pertinent, on va le rappeler une fois de plus, hein, quand on a un proche âgé ou autre, ou quelqu'un à risque dans son entourage, la meilleure des protections, bah, c'est de faire en sorte qu'il soit vacciné très vite. Ça, c'est sûr.
Exactement. La vaccination, c'est peut-être la seule chose qui nous permet de sortir de cette galère. Je vous rappelle, et je le vois trop souvent, des personnes tomber malades après la première injection. Ça ne veut pas dire que le vaccin ne marche pas. Ça veut dire qu'on a baissé un peu nos défenses et qu'on fait moins attention et qu'il faut un certain temps avant que le vaccin soit efficace. 15 jours à 3 semaines minimum. Donc quand vous sortez du médecin ou du vaccinodrome et que vous êtes vacciné, considérez-vous comme non protégé.
J'allais vous dire, une fois qu'on est vacciné, on ne peut pas jeter tous les gestes barrières à la poubelle.
Pas tout de suite. Il va falloir créer des bulles vaccinales dans un second temps lorsqu'on pourra se revoir entre personnes vaccinées. C'est vrai que ça fait un peu club élitiste, mais peu à peu, on va tous pouvoir le faire. Mais en attendant, soyez vigilants après l'injection. Et puis, si vous n'avez pas de moyens pour acheter les masques, je vous rappelle que vous pouvez les avoir gratuitement sur prescription médicale. Après 65 ans, si vous faites de l'hypertension, du diabète, des maladies compliquées,
plusieurs cas,
si vous êtes un aidant et si vous êtes dans une précarité économique, vous avez l'aide médicale d'État, une aide complémentaire santé, vous pouvez aussi en avoir gratuitement. Donc, personne n'est mis sur le côté de la route. Donc, protégez-vous en attendant qu'on sorte de là.
Merci beaucoup, Jimmy, pour cet éclairage. Alors, si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invitée pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Isabelle Schwartz. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Vous êtes chirurgien dentiste à Paris et donc avec vous, on ne va pas parler de roulettes, de fraises, de caries, enfin peut-être un petit peu quand même, mais on va faire le point sur les techniques esthétiques dentaires cet après-midi. Avoir de belles dents, docteur Schwartz, c'est devenu vraiment un motif de consultation en soi. Je veux dire, les gens ils viennent vous voir comme ça pour vous dire, docteur, mes dents ça ne va pas du tout. Faites quelque chose pour qu'elle soit plus belle, quoi, vraiment.
Absolument. Ouais. Moi, surtout, j'ai un exercice où je suis vraiment axée sur l'esthétique. Donc, la demande primaire des patients, c'est est-ce que je pourrais avoir un plus beau sourire? Qu'est-ce que vous pouvez faire, docteur? Je suis complexée depuis des années. Ou professionnellement, je sens qu'il faut que j'ai l'air plus pugnace, plus vindicative. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Et puis, la question qui revient sans cesse, c'est je voudrais avoir l'air plus jeune, avoir un lifting du sourire, avoir l'air plus douce ou plus doux. Donc en fin de compte, c'est une réelle demande, tant masculine que féminine.
Et vous parlez carrément de lifting dentaire, mais concrètement, les patients se plaignent de quoi? D'avoir des dents trop jaunes,
alors, les
mal
patients...
alignées?
Je vous laisse parler.
Je regardais Mélanie, mais il y a son masque, donc je vois pas.
Oui, en plus, on est dans une période où on va parler du
super.
Alors, remettez
on va parler du sourire et on se cache les dents et on se cache le visage, malheureusement, mais ce n'est que ponctuel. Oui, les gens souffrent souvent. C'est souvent un complexe depuis la plus jeune enfance ou depuis l'adolescence, plutôt l'adolescence, puisque les dents, ils s'en rendent compte. Pas tellement dans la tendre enfance, mais dans l'adolescence, c'est un complexe. Très souvent, il y a une question de positionnement des dents, il y a une question de forme des dents et il y a aussi une question de couleur des dents.
Le plus fréquent, c'est quoi? C'est les taches, blanc, l'alignement, qu'est-ce qui revient le plus?
C'est plutôt les formes des dents.
Ah oui.
Le positionnement, ça se règle en général assez bien avec l'orthodontie, mais c'est surtout les formes des dents et aussi les taches et les colorations. Parce que il y a quelques années, lorsque les femmes enceintes prenaient de la tétracycline, ça faisait des colorations terribles sous forme de lignes violacées sur les dents qu'on ne pouvait absolument pas blanchir ni décolorer. Maintenant, on le sait, donc on voit pratiquement plus cette pathologie. Le fluor, il y a environ 25 ans, 30 ans, on disait qu'il faut
tout le
donner
temps, tout le
du
temps
fluor
quand
aux enfants. Il s'est avéré que les eaux sont fluorées, que le sel est fluoré. Donc du coup, on a eu des fluoroses, on a eu beaucoup trop de fluor. Et ça donne sur des adolescents, enfin, je ne vais pas dire adolescents, des jeunes qui ont à peu près maintenant 24 ans, 23 ans, 22 ans, des taches blanchâtres ou jaunâtres sur les dents. Donc maintenant, on ne presserait plus le fluor. Donc il y a des colorations intrinsèque et extrinsèque par l'alimentation.
Est-ce qu'il y a une différence dans les plaintes, on va dire, entre les hommes et les femmes, les complexes du côté des dents? Est-ce que c'est les mêmes en fonction des sexes?
Oui, alors les femmes en parlent plus facilement. Donc elles attendent moins longtemps. Les hommes, c'est souvent plus ancré. C'est souvent des... Il le cache parfois par la barbe, par la moustache, par un air plus sérieux, plus renfrogné. Donc vraiment, quand un homme vient et fait cette demande, on sait que c'est très profond, très ancré en lui. C'est pas forcément pour faire plaisir à sa compagne. C'est vraiment une demande personnelle. Une femme, on en parle plus facilement. Les femmes vont parler de l'esthétique, vont parler de méthode esthétique, de chirurgie esthétique. L'homme, c'est quand même plus caché, mais c'est très profond.
Et avoir un beau sourire, ce n'est pas qu'une question d'esthétisme, c'est important d'avoir des dents en bonne santé, parce que finalement, c'est le reflet d'un état général quasiment.
Absolument, des dents belles et saines. Alors, quand on dit des belles dents, ça inclut d'avoir les dents saines. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait pas de fissures sur les dents, de fractures et de caries. À partir du moment où on a évincé tous ces problèmes, on peut parler d'esthétique. L'esthétique, c'est une fois que les soins ont été faits.
Alors, vous nous avez dit que les gens, enfin certains en tout cas, se plaignent de dents tachées ou jaunes. Qu'est-ce qui provoque principalement l'apparition de taches sur les dents? C'est vraiment via notre alimentation, ce qu'on se met dans la bouche quand même, hein, c'est
ça ? On a deux causes de taches. On a des taches extrinsèques, donc en surface. Donc là, c'est l'alimentation, le café, le thé, la cigarette, une mauvaise hygiène aussi parfois. Et les taches intrinsèques, qui sont dues à des malformations de l'émail dentaire lors de l'amélogénèse, lors de la formation.
C'est sous l'émail,
c'est sous l'émail. Il y a des défauts au niveau de la structure de l'émail, tant au niveau qualitatif que quantitatif. Et ça se fait in utero pendant la grossesse de la mère, puisque la formation des germes définitifs commence à partir du 6e mois de la grossesse de la mère. D'où l'importance d'une bonne alimentation pendant la grossesse.
Pour que bébé ait des belles dents quand il en aura.
Voilà.
Parfois sur Internet, on peut voir des choses assez particulières, notamment que le citron permettrait d'aider à blanchir les dents. Je crois que ce n'est pas une très bonne idée.
Non. Le citron est acide. L'émail, c'est de l'hydroxyapatite, donc c'est calcaire. Donc l'acidité va faire des porosités dans un premier temps, puis des trous. Donc vraiment, le citron, sucer un citron, c'est iatrogène pour les dents, c'est dangereux. Boire un citron pressé, ça va gêner au niveau de l'estomac, mais au niveau des dents, ça va passer. Donc faire très attention à ne pas sucer ces citrons et ça ne blanchit pas du tout.
Bon, les recettes de grand-mère, parfois, c'est pas terrible. Alors, est-ce que ça peut être génétique aussi, la coloration des dents? Est-ce que vous voyez comme ça des familles où finalement, de père en fils, on a les dents un peu jaunes ou les dents un peu grises? Enfin, je ne sais
Alors,
pas.
Alors, ce qui peut être génétique, c'est la forme des dents. L'absence de certaines dents, parfois des agénésies. Mmh. La coloration, ça viendrait au niveau de la qualité et l'épaisseur de l'émail. Oui, ça peut.
Ça peut, d'accord.
On peut aussi se brosser les dents correctement, 2 à 3 fois par jour, avoir une hygiène de vie, je ne vais pas dire irréprochable, mais correcte, et n'avoir les dents pas très blanches, en fait. Est-ce que, malgré tout, ce n'est pas un synonyme de beau sourire que de se bien laver les dents? Bien se laver les dents.
Alors, bien se laver les dents va entraîner qu'il n'y a pas de plaque dentaire. Donc, pas de plaque dentaire, ça veut dire limiter la formation
du tartre. C'est déjà bien, c'est important.
C'est déjà bien. Et s'il y a de la plaque dentaire, ça abîme les gencives. Donc, les gencives vont être inflammatoires, turgescentes, vont grossir. Donc, au niveau de la jonction dent-gencive, on va avoir une forme un peu boursouflée. Ça, déjà, ça modifie le sourire et c'est pas joli. Parfois, ça peut même créer des gencives qui saignotent. Donc, on peut voir parfois des patients qui ont un petit peu de sang. Et si sur les dents, on a sur la surface de la dent ce qu'on appelle la plaque dentaire, ça fait une espèce de magma un petit peu blanchâtre, jaune. Bon, ça, c'est vraiment quand on se les lave mal. C'est pas très appétissant. Mmh.
Mais est-ce que les dents, elles vieillissent? Est-ce que la couleur, par exemple, comme le reste, hein, notre peau, elle se flétrit? Est-ce que nos dents, elles jaunissent parce qu'on vieillit et puis c'est inévitable? Alors,
malheureusement, c'est inévitable. On vieillit, hein, tout vieillit en nous. Alors pourquoi les dents jaunissent en vieillissant? Parce que l'émail s'use. Et sous l'émail, il y a un matériau qui est la dentine. C'est le matériau qui est. C'est le tissu qui est innervé et vascularisé. Et cette dentine est beaucoup plus jaune. C'est comme l'ivoire, ce que les gens appellent l'ivoire. Donc, avec le temps, les dents s'usent. Elles s'usent tant en surface qu'en hauteur. Et donc, l'émail se réduit et on aperçoit par transparence la dentine qui est plus jaune. Et souvent, on le voit au niveau des incisives mandibulaires, où on voit sur le dessus, dans le milieu, un trait horizontal plus jaune. Chez les fumeurs, il est noir.
D'accord. Docteur Schwarz, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invitée, elle est toujours en studio avec nous. C'est vous, docteur Isabelle Schwarz. Vous êtes chirurgien-dentiste à Paris. Et avec vous, vous nous éclairez aujourd'hui sur Europe 1 sur les techniques en esthétique dentaire, notamment pour avoir des dents plus blanche, on y vient. On va commencer avec les petites méthodes de grand-mère. On a vu tout à l'heure que le citron, c'était pas top, mais nos grand-mères ou nos mères même nous ont souvent dit, quand on était plus jeune, brosse-toi les dents avec du bicarbonate. Moi, je me rappelle, je mettais la brosse à dents directement dans une espèce de poudre blanche. Mmh. C'était dégoûtant. Mais c'est vrai qu'effectivement, on avait l'impression que ça blanchissait un peu. Est-ce que c'est bien, c'est risqué?
Alors non, il n'y a aucun risque avec le bicarbonate, c'est neutre. Le bicarbonate, c'est bien parce que c'est un léger coefficient d'abrasion qui va enlever, mais très légèrement, en surface des colorations. Mais c'est surtout un tampon pour le pH salivaire. Dès qu'il y a une acidité, une inflammation, on a un pH salivaire acide et le bicarbonate va tamponner. Donc, ça va neutraliser. Donc
c'est bien. Alors, d'utiliser.
C'est bien.
Vous le conseillez, vous, à vos patients?
Oui, le bicarbonate, c'est bien. Mmh. Mais ça ne va pas donner un résultat d'éclaircissement. Mmh. Mais c'est bien pour la santé, c'est bien.
Et pardonnez-moi, je pensais qu'il y avait une différence entre le bicarbonate alimentaire qu'on pouvait trouver et celui qui va être présent dans le dentifrice. Et j'avais cru comprendre que le bicarbonate classique, qu'on peut utiliser à tout venant, eh bien, n'était pas micro-pulvérisé, c'est-à-dire qu'il va détruire l'émail, contrairement au bicarbonate du dentifrice, qui va être micro-pulvérisé, c'est-à-dire qu'il ne va pas détruire justement l'émail.
Alors,
donc finalement, celui du dentifrice serait peut-être safe, alors que celui qu'on
laisse,
rajoute...
Moi, je vous ai perdu. Voilà. Non, mais,
en gros, celui du dentifrice est bon, et celui qui serait ménager ne serait peut-être
alors,
pas bon.
Alors, ce n'est pas le ménager, c'est un spécifique qu'on achète en pharmacie,
oui, il me semble bien que
qui
c'est
est
pas le
spécifique
même.
Pour le brossage des dents.
Moi, j'en
le
dans
ménager
ma cuisine,
a effectivement une granulation beaucoup plus épaisse. Ce n'est pas du tout le même. Hein. Ce n'est pas celui que vous allez prendre pour mettre dans vos gâteaux.
Et justement, parfois, dans le dentifrice, on a aussi des dentifrices à base de charbon. Est-ce que là, c'est une bonne
alors,
chose?
Alors, le charbon, c'est à la mode actuellement. Ça détoxifie. Hein. C'est comme pour les intestins où on va prendre du charbon. Moi, je l'ai testé. J'ai des dents blanches naturellement et j'ai voulu tester le dentifrice au charbon. Je ne vois pas un effet
extraordinaire.
Et extraordinaire, si ce n'est
mais
que ça.
Mais risqué, ça ne l'est pas non plus.
Pas du tout.
D'accord, ça, on peut y aller sans problème. Donc, alors, puisque tout ça, ce n'est pas terrible, on va dire. Enfin, c'est bien, mais ça ne va pas donner un résultat blancheur exceptionnel. Est-ce qu'il y a des produits aussi qu'on trouve sur Internet? Alors là, on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans. Vous avez même vu, vous, des jeunes influenceurs dans votre cabinet qui avaient testé des choses et qui ont eu vraiment des dents très abîmées. Là, vous déconseillez les recettes de perlimpinpin.
Alors, il y a tout et n'importe quoi. Sur Internet, il y a des produits de blanchiment qui ne sont absolument pas sous les normes AFNOR et on ne sait pas du tout ce qu'il y a comme concentration. Et c'est très acide. Très toxique et j'ai vu effectivement des petits influenceurs qui se croyaient très très malins et qui ont acheté ça pour avoir des dents blancs lavabo et qui se sont retrouvés avec les dents abîmées puisqu'il y avait une acidité
avec, plus de dents du tout, donc
avec ensuite une pulpite, c'est une nécrose de la dent.
Ah oui.
Alors un blanchiment, ça éclaircit, c'est un éclaircissement, il ne faut pas attendre d'un blanchiment d'avoir des dents blanches. On va gagner une teinte, voire une teinte et demie, mais ça éclaircit. Il vaut mieux parler d'éclaircissement que de blanchiment, où les gens pensent qu'ils vont avoir des dents très très blanches.
Et que pensez-vous des barres à sourire, les barres à blanchissement qui ne sont pas faites par des dentistes? Est-ce que, un, c'est efficace? Et deux, est-ce que c'est dangereux?
Alors, moi je vais commencer tout de suite par le deux. Je vais dire que c'est dangereux, parce que je fais partie des praticiens qui sont absolument contre, et ce n'est pas pour une question de concurrence, hein,
mais c'est
pour une question sanitaire.
Les gens perçoivent, dans la tête des gens, c'est finalement, on fait ça parce qu'on prend du travail au dentiste, en quelque sorte.
Non, mais alors là,
si on leur explique vraiment le rôle du chirurgien-dentiste,
donc
peut-être
là,
qu'ils vont comprendre.
Voilà, là, ce n'est pas du tout une question de concurrence, de dire, oh, ils vont trouver moins cher ailleurs, donc ce n'est pas bien, on les empêche. Pas du tout. Les barres à sourire, un blanchiment nécessite d'abord un examen dentaire pour être sûr que les dents peuvent supporter un blanchiment. Ce n'est pas anodin, c'est un acte médical. Donc, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de fissures sur les dents, de fêlures, de restauration prothétique qui ne soit pas jointive. Car s'il y a, par exemple, un ancien amalgame ou un composite ou un inlay qui n'est pas jointif, le produit de blanchiment va venir s'infiltrer. Et là, c'est une catastrophe puisqu'il va agir dans une zone pressée. Donc, il doit y avoir au préalable une visite par un praticien. Deuxièmement, lorsqu'on met les produits à blanchir, il faut les mettre uniquement sur la face externe de la dent et protéger les gencives et les tissus mous. Or, dans ces barres à blanchir, il n'y a pas tout le matériel et les personnes qui font ça sont parfois des esthéticiennes ou même pas.
Qui n'ont pas les compétences médicales nécessaires.
Qui n'ont absolument aucune compétence, ni médicale, ni même paramédicale. Donc à partir du moment où on touche à l'humain, il faut que ça soit quand même quelqu'un de l'art.
Alors justement, pour le blanchiment en règle, ça se passe donc chez le dentiste. On a un premier rendez-vous, vous avez dit, donc où on vérifie que tout va bien, qu'il n'y a pas de contre-indications, vous les avez un petit peu décrites. Vous posez des questions également, je crois, sur le quotidien du patient, parce qu'en gros, si la personne elle boit déjà 10 cafés par jour, ça ne sert à rien de se lancer dans un blanchiment.
Absolument. Et en plus, un blanchiment, il faut le faire tout de suite après un détartrage. Parce que si on n'a pas fait de détartrage et qu'il y a du tartre, qu'il y a de la plaque dentaire, C'est totalement hors sujet, dirons-nous. Même pas inefficace, mais je dirais hors sujet. Vous me demandiez si...
Que vous posez des questions sur l'hygiène de vie. Quelqu'un qui boit 15 cafés par jour.
On ne va pas faire un blanchiment sur quelqu'un qui fume. On ne va pas faire un blanchiment sur quelqu'un qui prend beaucoup de café. Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la séance de blanchiment, il faut attendre environ 4 jours avant de reprendre des aliments colorés, tant boissons que solides. Parce que lorsque l'on blanchit, les produits que l'on met, c'est une oxydation qu'on va faire, dépolissent la surface protéinique. C'est un film gras qu'il y a sur la surface de la dent. Et donc, on l'enlève. Il faut attendre 4 jours, entre 2 à 4 jours, pour qu'il se reforme, de façon à refaire une protection naturelle. Puisque je disais tout à l'heure que l'émail, c'est de l'hydroxyapatite. Ce sont des minocristaux. Et il y a des petits espaces entre. Donc, on a besoin d'avoir cette protection.
Et donc ça, c'est le blanchiment dentaire qui se fait au cabinet, c'est ça? Donc c'est avec de la lumière?
C'est du peroxyde de carbamide qui est activé par une lumière LED. Ça active l'oxydation. À une époque, on faisait ça avec des lasers, c'était stoppé puisqu'on s'est rendu compte que ça faisait une élévation de température sur la dent. Donc ça créait des nécroses. Donc ces lampes-là doivent être homologuées dans les centres de blanchiment.
C'est pas le cas, forcément.
On ne sait pas. Ces lampes-là doivent être régulièrement surveillées. Il faut savoir les appliquer au bon endroit. Oui. Il faut surtout faire une bonne protection au niveau des tissus mous. Il faut respecter les temps de pose des produits.
Bien sûr.
Et il faut être près du patient. Parce que dans les bars, ils mettent le patient sous la lampe et c'est débrouille-toi. Ils s'en vont, ils reviennent les chercher.
Alors enfin, il y a le blanchiment qu'on fait en ambulatoire aujourd'hui. Alors, c'est ce qui se fait quand même, je crois, de plus en plus. C'est des gouttières qu'on fait chez le dentiste, mais qu'on va poser chez soi, c'est ça ?
Alors ce blanchiment en ambulatoire, à la différence du blanchiment en cabinet, le produit que l'on va mettre dans les gouttières n'a pas la même concentration. Lorsque l'on fait ce blanchiment en cabinet, c'est du peroxyde de carbamide à 6%. Mmh. Lorsqu'on le fait en ambulatoire, c'est différent, c'est du 10%. Mais ce n'est pas la même formulation puisque c'est plus faible. Donc souvent, chez un praticien, on fait le blanchiment au fauteuil. Ça dure à peu près 4 séances de 15 minutes en moyenne. Et parallèlement, si la teinte est un peu foncée, on fait fabriquer des gouttières et le patient, pendant 6 jours, 2 heures par jour, va insérer en ambulatoire ses gouttières.
Rapidement, le prix de l'un et de l'autre en moyenne, on va dire ?
Ça dépend un petit peu du produit et des temps. Et ça varie. Je parle du blanchiment complet chez le praticien. Mmh. C'est entre 800 ou à peu près 700 et 1000 euros.
Très bien. Docteur Schwartz, ne bougez pas. On va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La musique, c'est bien, mais la santé aussi. Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous. Elle nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, docteur Isabelle Schwartz. Je rappelle que vous êtes chirurgien-dentiste à Paris. Alors, si jamais le blanchiment dont on a parlé tout à l'heure ne blanchit pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des jolies dents? Est-ce que les facettes dentaires... Moi, j'avais souvenir, c'est surtout d'avoir vu ça chez des acteurs américains à une époque. Mais en France, ça se fait vraiment et toujours?
Ça se fait de plus en plus. Américains ont été précurseurs dans le domaine de l'esthétique, mais ça se fait de plus en plus. Alors, parfois, ce n'est pas des facettes qui sont l'indication, mais des couronnes, toutes céramiques. Mais c'est vrai que la facette est l'étape intermédiaire entre le blanchiment et la couronne. Et la facette va permettre de modifier la couleur, mais aussi de modifier la forme légèrement.
Alors, expliquez-nous justement ce que c'est la facette. C'est comme c'est le faux ongle de la dent, quoi. C'est ça,
un peu. Comme le faux ongle de la dent. C'est une facette, c'est-à-dire c'est une face externe de dent pelliculée qui fait entre 0,2 et 0,3 mm d'épaisseur. Lorsqu'elle est en céramique, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus naturel, et qui va être collée sur la surface de la dent. Il existe deux types de facettes, puisque la science et la technologie des matériaux ont évolué. Des facettes avec préparation des dents, c'est-à-dire que l'on va tailler légèrement les dents, et des facettes vraiment très pelliculaires où on ne taille pratiquement pas les dents.
Et quel est l'avantage des facettes par rapport au blanchiment dentaire? Pourquoi est-ce qu'on irait tailler des dents? Parce qu'on a l'impression que c'est...
Mais si elle tombe, la facette, on se retrouve avec une dent de vampire en dessous.
L'avantage, c'est que ce n'est pas la même indication. Quand on a des dents qui ont des jolies formes, bien alignées, ou sans qu'elles soient parfaitement bien alignées, mais qui correspondent à notre désir, qu'on les veut simplement un petit peu plus blanches, effectivement, un blanchiment, ça suffit. Si on a un désir de changement, d'amélioration, tant au niveau du volume de la dent, puisque ça va jouer sur l'extérieur de la dent, donc ça va rejouer sur le volume de la dent, au niveau du positionnement des dents, parfois des légères malpositions, on peut les rectifier avec des facettes, et la couleur. Là, ça a une indication. Et je disais qu'il y a deux types de facettes, des facettes avec taille de dent et des facettes sans taille de dent. Et les nouveaux types de facettes qui sont vraiment comme des faux ongles, où on dépolie juste, mais légèrement la surface de la dent et c'est collé, si jamais ça tombe, on va se retrouver avec la dent à l'état initial. Donc, ce n'est pas du tout mutilant. Ouais. Mais ce n'est pas dans toutes les indications. C'est pareil.
C'est du cas par cas, quoi. C'est
ça,
du cas par
cas. Il y a l'occlusion, c'est-à-dire les rapports d'engrainement entre le haut et le bas qui viennent en ligne de compte. Si on a des parafonctions du style bruxisme ou qu'on est habitué à mordiller des stylos, enfin des.
Oui, c'est pas très, très indiqué. Ouais.
Oui, parce que
du
ça
coup,
va
ça prend du temps.
Décoller.
C'est ça, c'est que vous faites ça dent par dent. Donc c'est au cabinet dentaire. On peut pas faire ça à distance. Et
on commande pas les faux ongles dentaires sur Internet, voilà. On est
non,
d'accord.
Non, non. Alors,
et combien de temps ça met?
Alors, c'est rapide. Il y a des praticiens, parce qu'il y a des types de facettes, moi je sais que je refuse de le faire, c'est vraiment comme des faux ongles, vous recevez des coffrets avec plusieurs tiroirs, et vous avez différents types de facettes en fonction des formes de dents, avec différentes tailles différentes, exactement comme dans une manicurie. Alors ça, c'est pas beau, ce sont des facettes de mauvaise qualité, l'ajustage n'est pas bon, puisque c'est assez empirique, on règle comme ça, donc ça je le fais pas. Ensuite, les facettes adaptées et réalisées par un prothésiste, on doit prendre une empreinte,
Avant, bien sûr.
Et donc, c'est vraiment au dixième du millimètre un ajustage parfait.
Mais vous êtes obligé de faire les 30 dedans ou est-ce qu'on peut
faire juste une
s'il y en a une qui pose problème?
Les facettes, s'il y a une dent qui pose problème, on fait une dent.
Et vous la faites la plus possible ressemblante à celle qui reste à côté.
Exactement. Ouais. Pareil. C'est pour ça que le rôle du prothésiste doit être est fondamental. Il faut un excellent prothésiste, il faut des excellents matériaux. Et il y a un
mimétisme. Il va retrouver la même teinte que les dents à côté.
Moi, au cabinet, mon prothésiste est sur place. Et franchement, on retrouve exactement la même teinte. Alors, on peut faire au cas par cas une dent, deux dents. Par exemple, deux incisives latérales qui sont un petit peu rentrées. On met juste deux facettes sans taille sur les incisives latérales et ça réharmonise le sourire. Ensuite, si on veut vraiment un sourire plus blanc, en général, la ligne de sourire, lorsqu'on sourit, ça s'arrête au deuxième prémolaire.
Vous voyez, Jimmy, il y a vraiment de quoi trouver votre bonheur. Hein.
C'est
du cas par cas. Deux, trois dents et c'est bon, j'aurai un sourire ultra bright. Et une fois qu'on a posé ces facettes, est-ce qu'il faut prendre soin de ses dents de la même façon? Est-ce qu'on doit se brosser les dents toujours autant? Est-ce que les dents sont plus fragiles? Puisqu'on imagine, si on a posé un matériel dessus,
peut-être que des choses... blanche, tranquille, toute
alors,
seule, quoi.
Ouais. Alors, on se brosse les dents de la même façon.
Avec une brosse à dents classique, ouais.
Une brosse à dents classique ou mécanique. Moi, je ne prône pas plus la mécanique que la manuelle. Donc, une brosse à dents, son brossage normal. C'est important qu'il n'y ait pas de plaque dentaire, parce qu'à la jonction, ce qui est beau, c'est lorsque la facette sort, on a le sentiment qu'elle sort vraiment de la gencive. Et lorsque l'on sourit, qu'il y a une adaptation parfaite et que ça paraît, c'est une dent naturelle. Donc, si vous vous brossez mal les dents, qu'il y a une inflammation de la gencive va se rétracter, ça ne sera plus ajusté. Au niveau de l'alimentation, on mange normalement. Il faut faire attention simplement à ne pas avoir des mauvaises habitudes du
style... On n'ouvre pas les canettes avec les dents.
Voilà, j'allais le dire. Ou l'artichaut, c'est souvent un peu dangereux parce que si vous serrez très fort et que vous tirez la feuille, ça peut parfois la
l'artichaut,
faire
l'artichaut, c'est dangereux.
Il y a voir arriver
non,
des patients avec les facettes qui ont sauté.
Non seulement c'est pas bon, mais en plus c'est dangereux. Là,
c'est délicieux les artichauts. Enfin.
Non, mais tout ce qui est force de traction, il faut faire attention. Voilà.
Bon, je vais continuer à manger des artichauts, j'ai pas de facettes, ça tombe bien. Ça va durer combien de temps les facettes? Vous me les posez
des
un
années.
Jour? Ah oui, je suis
ça
tranquille pour longtemps,
années,
c'est génial.
Et il faut vraiment faire attention.
Sauf si on mange des artichauts, on a compris, mais sinon ça peut durer très très longtemps. Ah ouais.
Après, c'est par les agriculteurs.
Elles vont pas tomber au bout d'un moment, quoi.
Ça peut toujours, mais c'est pas grave, on va la receler si elle s'est décellée ou sinon ça se
mais 10 ans, ça peut rester 10 ans
oui,
en place.
Bien sûr,
ah ouais, c'est incroyable. Et ça dit, je crois que ça vaut bien parce que ça coûte assez cher quand même.
Combien ça coûte justement de poser des facettes?
Alors, quand ce sont des facettes faites par des vrais prothésistes et l'excellence, c'est entre, ça dépend s'il y en a beaucoup ou pas, hein, mais c'est entre 1200 et 1500 la facette.
La facette,
la
hein, ouais. Mais ça dure 10 ans, alors ma foi, bon, c'est cher, en tout cas, c'est un budget.
Pour commencer.
Jenny, vous pouvez commencer par
mais alors, ça apporte une telle satisfaction, une telle revalorisation de soi, un tel confort que c'est moins cher que d'investir dans une voiture.
Alors, on a beaucoup parlé de blanchir les dents jusque-là, mais dans l'esthétique dentaire, vous l'avez dit, hein, il y a une demande aussi qui revient beaucoup, c'est avoir un alignement parfait ou meilleur, en tout cas, des dents. Il y a des gouttières pour corriger
alors,
ça chez les adultes.
Alors, les systèmes de gouttières transparentes, on le fait même sur les enfants, donc c'est relativement récent. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas une éviction sociale puisque ça ne se voit pratiquement pas. Ça se porte.
Je peux les enlever si j'ai un rendez-vous galant, par exemple.
Absolument. Ou... C'est 22, mais il faut pas qu'il soit trop long parce que ça se porte 22 heures sur 24.
Ah, quand même. D'accord, c'est juste attention. 2 heures le resto. Il n'y a pas de resto, ça tombe bien.
Voilà. Il y a une action qui est très efficace. Sur les dents, alors tout ça c'est une étude qui est faite, c'est pareil, il faut aller voir des spécialistes, puisqu'on prend des empreintes, on prend des photos, il faut des radios, après c'est étudié sur logiciel, on détermine le nombre de gouttières qu'il faut par arcade, souvent on fait des petits strippings, c'est-à-dire des petits meulages sélectifs très fins de 0,1 voire 0,2 mm de diamètre d'épaisseur de part et d'autre de certaines dents. Et il est collé sur certaines dents des petits morceaux de composite qu'on appelle des petits braquettes, puisque il faut que la gouttière soit active et ce ne sont pas des gouttières passives.
Et au bout de combien de temps on peut espérer avoir une amélioration de son alignement dentaire ?
Alors, ça va dépendre de l'état initial. En moyenne, un an, souvent. Parce qu'en général, lorsqu'on fait ce type de traitement, on n'a pas une occlusion non plus trop catastrophique. Quand il y a vraiment des gros problèmes d'occlusion, on associe souvent un traitement multibag, à multi-attache. Parfois, il peut y avoir des problèmes de chirurgie. Là, c'est vraiment des réalignements. Et en moyenne, c'est à peu près un an et demi, parfois 6 mois. Parfois, lorsqu'il y a juste une petite dent, c'est très rapide.
Alors, pour terminer, avec tout ce dont on vient de parler, on a vu que l'arsenal pour nous rendre beau, enfin pour avoir de belles dents, est important, même si ça peut être un budget. C'est vraiment une métamorphose. Et je crois que vous dites que pour vos patients, bien sûr, c'est un bien-être rapporté, mais parfois, ça les aide aussi à trouver l'amour.
Absolument, parce qu'il y a une prise de confiance en soi. Il y a une revalorisation de l'estime de soi. Les gens sont plus ouverts, parce qu'en fin de compte, la bouche, c'est le regard de l'âme. La bouche, c'est la communication, c'est l'organe de communication. C'est aller vers l'autre. Lorsqu'on est complexé, qu'on a des vilaines dents, on n'ose pas sourire. Le sourire, c'est quand même un appel. C'est la douceur, c'est l'envie. Et c'est aussi la sensualité.
Très bien. Merci beaucoup, docteur Schwartz, d'avoir été avec nous cet après-midi. On a compris qu'il y avait de nombreuses solutions pour retrouver un sourire parfait, même l'âme sœur peut-être, qui sait. Merci.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Bien-être, Santé, sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner. Et à présent, on va passer à notre séquence Les mots du quotidien. Parlons de la cataracte. Savez-vous ce qui se met à dysfonctionner finalement dans les yeux des patients touchés ? À quel point la vision est-elle perturbée par ce trouble ? Aujourd'hui, ça s'opère, ça vous le savez sûrement. Mais que fait réellement le chirurgien dans un œil avec une cataracte ? Notre journaliste Valentin Piovesan vous a posé toutes ces questions. On écoute son micro-trottoir.
La cataracte, pour moi, c'est un voile sur l'œil.
C'est un problème de déficience de l'œil, je crois. Genre, on voit plus bien à cause de la cataracte.
On peut voir des rayons de couleurs, un peu comme un arc-en-ciel autour d'un phare.
Je crois qu'on voit moins bien de long et petit à petit, ça se dégrade, même de près, je crois.
Pour moi, on voit flou. Je sais pas, j'ai pas vu ça, moi. J'ai pas eu des gens autour de moi qui en ont eu. De ce que j'ai lu, c'est un voile, non ?
Cataracte, moi, surtout vers la cinquantaine, je pense.
En temps 50, 50, 60.
Aujourd'hui, maintenant, pour régler des problèmes, on a créé des lentilles qui permettent de rétablir la cornée, donc ça doit exister, des choses comme ça.
Il me semble que maintenant, ça s'opère très bien. Une petite incision avec un bon ophtalmo, 2-3 jours d'attention et puis des lunettes protectrices et je crois que c'est fini, quoi.
Allez Jimmy, pour démarrer, un petit rappel physiologique, la cataracte c'est quoi ?
Alors la cataracte, c'est une maladie de l'œil. Jusque-là, tout va bien.
Ouais, ça on le savait, alors ok, ensuite.
Ça correspond à l'opacification progressive du cristallin. Le cristallin, c'est la lentille qui est située dans l'œil. Sauf qu'on rigole, mais sans traitement, ça évolue vers la cécité. Et c'est la troisième cause de cécité en France, puisque non traitée, eh bien, vous perdez la vue.
Alors en général, on sait, enfin, on a tous vu autour de nous une personne âgée qui avait un problème de cataracte ou qui s'était fait opérer pour ça. C'est obligatoire en vieillissant ? C'est quelque chose de génétique ?
Alors de façon naturelle, le cristallin, un peu comme les autres organes, va finir par s'abîmer et devenir opaque. Et donc on va tous être atteints à des degrés différents d'une cataracte. On sait qu'à partir de 65 ans, on a 50% de la population qui va être atteinte de la cataracte, évidemment à des degrés différents, et que plus on vieillit, plus on a un risque d'avoir cette cataracte. Mais il y a aussi certaines pathologies. On peut avoir des cataractes secondaires, notamment liées à des médicaments. Mmh. Lorsque vous prenez trop de corticoïdes, vous pouvez avoir une cataracte. Et on a aussi des formes congénitales chez l'enfant, notamment
très
après,
rare,
par exemple,
même,
c'est
hein,
rare, liées après la toxoplasmose.
D'accord. Alors on dit que c'est un trouble de la vision, Jimmy. C'est-à-dire que, bah, je ne sais pas, comment on voit quand on a une cataracte ? Est-ce qu'on devient complètement aveugle ? Est-ce que la vue, elle baisse progressivement d'un coup ? Comment ça se passe ?
Alors c'est un mécanisme qui est très progressif. À mesure que votre cristallin va s'abîmer, eh bien, vous allez avoir de plus en plus de symptômes. Le premier que vous pouvez avoir, c'est un trouble de la vision de loin, un peu comme si vous étiez myope. Et on dit cataracte parce qu'en fait, les symptômes évoqueraient la vision qu'on peut avoir en regardant à travers une cascade. Donc finalement, on voit assez bien ce dont on veut parler. Et puis parfois, vous allez avoir des couleurs qui vont être un peu plus ternes. La vision va devenir un peu plus voilée. Vous êtes plus sensible à la lumière et est ébloui notamment
par
les lumières.
Crois,
exactement,
ouais,
la nuit.
Conduire, exactement. Effectivement. Alors ça fait mal d'avoir une cataracte ou pas ?
Non, c'est absolument indolore et c'est souvent une des raisons pour laquelle les patients vont mettre du temps avant de consulter. La vision va baisser progressivement et ils vont arriver chez l'ophtalmo souvent à un stade un peu tardif.
Est-ce qu'il y a des médicaments éventuellement qui peuvent nous faire guérir sans avoir à passer par la case bisturi ou
sauf
laser?
Si vous en avez un proposé, la Mélanie, non, malheureusement, il n'y a pas de traitement. Non, mais alors il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de goutte, il n'y a pas de technique qui permette de limiter la cataracte. En revanche, avant d'opérer, puisque le traitement reste chirurgical, eh bien on va proposer certaines adaptations comme des lunettes, des dispositifs pour être moins ébloui par la lumière. Mais une fois qu'on n'a pas le choix, eh bien direction la case bisturi.
Bon, il reste peu de temps, Jimmy. Vous allez faire un petit record là, nous expliquer l'opération de la cataracte en 30 secondes.
C'est
allez-y.
La chirurgie la plus fréquente en France. Ouais. Votre cristallin ne marche plus. On fait donc une intervention chirurgicale en ambulatoire sous anesthésie locale. Et le principe est simple, c'est de remplacer ce cristallin soit par un artificiel, soit en faisant une petite technique d'ophtalmo.
Avec un implant.
Exactement, voilà. Avec un implant. L'efficacité est hyper efficace, c'est vraiment très efficace. Et on fait un œil après l'autre. On ne traite pas les deux en même temps en règle générale.
Bon, bah très bien, l'efficacité est hyper efficace. C'est vraiment très efficace.
C'est
pour
vous dire que c'est très efficace.
Donc c'est génial. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions. Grâce à vous, on y voit beaucoup plus clair.
Et on est hyper efficace.
Voilà.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h. Tout de suite, c'est Catherine Blanc qui rentre dans ce studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris, qui nous arrive pour sa chronique sexo. Catherine, aujourd'hui, il va falloir répondre à la question d'Agathe. Jimmy, vous nous lisez cette question?
Évidemment, avec grand plaisir. La dernière fois, mon copain est rentré du travail avec une envie terrible de me faire l'amour. Je lui ai demandé de prendre une douche ou au moins de se laver les parties génitales. Mais il l'a très mal pris. Je n'aurais pas dû, selon vous. Bon, Catherine, c'est une réaction normale. Au moins, se laver le zizi, c'est le minimum syndical, non? Parce que
Jimmy va répondre à la question. Hein, bah Catherine, mais... vous pouvez rentrer.
Où est le problème, en fait?
En fait, il n'y a pas évidemment qu'on peut comprendre que pour avoir... D'abord, il arrive et il a très fort envie de sa femme, très bien.
Pourquoi pas?
Mais
avant
voilà.
De manger, on se lave les mains. Donc, avant de tripoter, on se lave aussi les mains.
Ça aussi, ça fait partie des dictons de Jimmy.
Hier, on a eu un dicton aujourd'hui.
Chaque jour, son dicto.
Ouais. C'est ça. Donc, effectivement, elle a le droit, d'avoir envie d'avoir un sexe attirant et avec lequel elle se sent en sécurité, bien sûr.
Ça enlève un peu de spontanéité, quoi.
Oui, mais attendez, ouais, on y vient. Mais c'est certainement aussi une façon, elle, de temporiser, parce qu'elle était sur un tout autre sujet. Tout d'un coup, il y a un homme qui a terriblement envie d'elle. Le fait qu'il aille prendre sa douche, le fait qu'il s'occupe un peu de lui, etc., ça lui permet de s'approprier le projet pour ne pas être simplement la proie du monsieur qui lui saute dessus. Donc, en fait, il n'y a pas qu'une histoire de propreté, il y a une histoire de temporisation de la situation. Maintenant, effectivement, comme vous le disiez, Mélanie, eh bien, effectivement, il y a toujours cette idée de spontanéité.
Oui, c'était mignon, il arrivait tout chaud, tout brûlant pour elle, comme ça, d'amour et de désir, et elle lui dit, allez hop, va te laver.
Voilà, non, je crois qu'en fait, c'est très légitime d'être dans la spontanéité et de ne pas calculer les douches, les machins, etc. Et c'est très légitime d'avoir envie que tout soit tout beau, tout propre, et sente bon, le savon ou
vous comprenez les deux, quoi, en fait.
Oui, hein, mais c'est pas parce qu'on comprend les deux qu'on ne peut pas entendre qu'il y a aussi, du coup, quelque chose de comme si c'est pas maintenant tout de suite, je vais perdre mon désir et je ne suis excitée qu'à l'idée de te bousculer. Et de l'autre côté, c'est je veux bien, mais attention, tu viens d'un univers loin de moi qui tu dois te nettoyer, te carchériser, comme si la sexualité était potentiellement dangereuse, dégueulasse, etc. et qu'il fallait la remettre dans le cadre tranquille, propre, sain du couple. Donc en fait, il y a du fantasme de part et d'autre, mais il y a de la légitimité dans ces deux élans. La sexualité n'est pas sale, le sexe n'est pas sale. Savoir aussi comment ce monsieur vit-il quand il va uriner, quelle est la propreté qui est la sienne. Et on peut comprendre que c'est aussi vrai d'ailleurs pour une femme. On a envie de pouvoir goûter le corps de l'autre en toute sérénité.
Quand il est frais, quoi.
Quand il est frais. Mais après, il y a des gens qui ont des fantasmes tout à fait autres, justement.
Oui, ce que vous dites, c'est pas sale, c'est pas sale. Nous, on n'a pas l'odeur dans le texte. Là. Peut-être qu'effectivement, il y a quand même un petit truc de fromage qui peut sortir de son slip. Et on peut comprendre.
Alors,
je ne
rentrerai pas dans ce genre de détails.
Si on est très sérieux, deux secondes.
Oui, soyons très sérieux, deux secondes.
Douche, on peut le comprendre. Mais c'est vrai que ça peut être un peu humiliant de lui demander de se laver le zizi. Parce qu'on peut se dire, autant tu prends la douche.
Oh, mais juste avant, vous disiez c'est normal et maintenant c'est humiliant.
Je pense qu'au moins, lave-toi les boules. On peut comprendre.
Je vous laisse la liberté de votre propos. Alors, donc, en l'occurrence, moi je trouve que ce eût été une bonne idée de lui dire, de répondre, si tant est qu'encore une fois, ce ne soit pas pour temporaliser, c'était de lui dire, mais welcome. l'homme et l'embarquer dans la douche avec elle. Et,
voilà,
et là,
ça aurait
été érotique pour tous les deux. Et puis comme ça, il n'y a pas une histoire de vexation, de tu rentres, tu es sale, tu pues, ou tu es dégueulasse, et berk, berk, berk.
Non, alors, on peut lui dire plus gentiment. Peut-être que là, elle a été simplement maladroite aussi. C'est pas
mais
très
c'est
grave.
Pour ça que je pense qu'en fait, ce n'est pas un sujet de propreté. Je pense
c'est
que le sujet,
c'était
de ne pas être dans la spontanéité du truc et la difficulté pour elle de sauter sur une occasion pour érotiser ce retour du héros tant désirant.
Quel est le pire alors d'avouer qu'on n'a peut-être pas envie ou de trouver un prétexte pour essayer de le refroidir? Parce que j'ai l'impression que
là, finalement... Vous êtes inspiré sur cette chronique, hein, Jimmy.
Non, mais parce que je comprends, en fait, j'avais pas vu cette deuxième lecture, hein, de dire que peut-être qu'elle n'était pas disposée
pas prête,
à ce que,
ouais.
Voilà, il y a un rapport. Mais quel est le pire dans cette situation? Dire qu'on n'est pas tout à fait... prête ou
je crois qu'il n'y a rien de pire, mais je pense que pouvoir dire « t'es adorable, mon chouchou, t'es mignon, mais c'est merveilleux, mais j'adore quand t'as envie de moi, mais là, tu vois, je suis en train de terminer de préparer la compote
ce
ou
qui
le crumble.
Te laissera le temps de prendre une petite
voilà.
douche. »
Voilà, et du coup, « mais si tu veux, je te rejoins.
Voilà. »
Mais on peut s'amuser avec tout ça. Maintenant, elle a aussi le droit. C'est pas parce qu'il y en a un qui est disponible là dans la seconde pour être...
Que l'autre doit l'être, absolument.
Exactement. Mmh. Donc, il n'y a rien de grave, mais si on doit le prendre mal, c'est qu'il y a quelque chose qui derrière se joue, c'est encore une fois, pour une fois, parce que ça peut être aussi un homme qui a du mal à être dans le désir, là tout d'un coup il en a et puis hop, on l'arrête net. Donc quelle est la part de cette attitude qui est plutôt une attitude castratrice, quelle est la part de cette attitude qui est plutôt protectrice de soi-même, et finalement où est passée l'érotisation même pour reporter à plus tard le fait de faire l'amour ou de trouver le moyen de jouer de cette situation pour érotiser la relation et faire l'amour peut-être tout de suite, mais ou pas. Voilà.
On verra bien. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc je vous dis à demain.
C'était Sans Rendez-vous avec Cyclamed. Hors période de confinement, rapportez en pharmacie vos médicaments non utilisés. Qu'ils soient périmés ou non, Cyclamed les collecte et les valorise. Plus d'infos sur cyclamed.org.